Vous êtes avec Radio SBS en français.
Nous avons le plaisir d'avoir dans les studios de Radio SBS Philippe Platel, qui est l'attaché culturel de l'ambassade de France en Australie. Bienvenue Philippe.
Bonjour Jean-Noël.
On va peut-être d'abord faire le bilan de l'Alliance française French Film Festival, édition de 2017, votre premier festival.
Ben oui, j'ai eu cette chance d'assurer la direction artistique de ce festival. C'était ma première édition. Je suis arrivé en octobre, en septembre, et j'avais septembre-octobre pour faire la programmation. On a donc présenté 45 films français. Bon, je vais pas revenir sur tout ce que j'ai déjà dit la première fois, mais maintenant, ce que je peux dire, c'est quel en a été le résultat. Ce que j'avais dit il y a quelques mois quand on avait fait cette première interview à propos de la programmation, c'est qu'elle était peut-être un peu plus exigeante que qu'auparavant. Non pas uniquement par choix personnel, même si effectivement il y a un petit peu de ça dans ma programmation, mais aussi parce que l'industrie du cinéma français va peut-être un peu dans ce sens. En tout cas, les films qu'on a envie de présenter dans un festival aujourd'hui, les films produits en France sont peut-être un peu plus sérieux, sans doute parce qu'ils sont connectés à la réalité, ils sont plus connectés à la réalité, ils sont connectés au monde d'aujourd'hui, et que le monde d'aujourd'hui, il incite peut-être un peu plus à parler de choses sérieuses que à être dans la franche rigolade. Alors, il y a aussi des comédies qui sont produites en France. Maintenant, c'est vrai que les très bonnes comédies, il y en a un petit peu moins. En revanche, des très bons films, il y en a eu beaucoup, des très bons films historiques, des très bons films sur la réalité, sur le monde d'aujourd'hui, en France ou ailleurs d'ailleurs. Il y a quelque chose de très révélateur dans cette situation. C'est donc sur les 45 films qu'on a présentés, il y avait assez peu de comédies, même très très peu. Assez peu de comédies romantiques aussi. Moi, quand je suis arrivé, on m'a dit les Australiens adorent les comédies et les comédies romantiques. Donc j'étais un petit peu angoissé parce qu'effectivement tout ce que je voyais provenir de France, tout ce que je voyais aussi acheté par les distributeurs australiens, c'était pas toujours de la comédie ou de la comédie romantique, même plutôt franchement peu. Alors ça me rassurait plutôt que les distributeurs australiens achètent aussi des films plus sérieux que d'habitude, mais il y avait effectivement de très bons films. Et donc si on prend les résultats de ce festival, ils sont assez flagrants à la fois sur ce constat qu'on peut porter sur la production du film en France aujourd'hui, mais aussi sur la réponse du public. On a donc un festival du film peut-être plus avec plus de drames, plus de films sur la réalité, sur les difficultés du monde aujourd'hui. Et on a quand même une audience qui a augmenté. Et donc ça, on en est très fiers. On est à près de 175 000 visiteurs, spectateurs, pardon, soit à peu près 4% de plus que l'année dernière, alors que les chiffres n'ont cessé d'augmenter les années précédentes. On a encore réussi à monter, ce qui est vraiment une prouesse avec un festival qui effectivement maintenant commence à arriver à sa maturité. Et ce qui est intéressant, c'est quand on prend le top 10 du festival, ce vers quoi le public est le plus allé, il n'y a qu'une seule comédie, c'est Penny Pincher, donc Radin, avec Danny Boone. Tout le reste, ce sont des films beaucoup plus graves, voire très intello pour certains. Alors il y a évidemment le film d'ouverture. En général, le film d'ouverture, il est toujours très bien vendu, très bien suivi par les spectateurs. L'Odyssée, le biopic sur Cousteau. Tout de suite après, et ça c'est la grande surprise, et moi je m'en réjouis parce que c'est un de mes films préférés à titre personnel, c'est Things to Come, l'avenir de Mia Hansen-Love avec Isabelle Huppert, qui est tout sauf une comédie. C'est un film très intellectuel.
C'est à cause d'Isabelle Huppert qui est...
Alors, c'est sûr que le nom d'Isabelle Huppert joue. Ce serait une actrice totalement inconnue. On n'aurait pas le même, effet. Et il y a eu cette grande actualité sur Isabelle Huppert, les Golden Globes, le fait qu'elle aille aux Oscars. C'est sûr que ça a joué. C'est évident. Maintenant, c'est quand même un film très intello sur une prof de philosophie qui se fait plaquer. Enfin, on est loin de la comédie et encore plus de la comédie romantique. Parce que même l'histoire d'amour qu'on imagine à un moment dans le film, elle se plante teinte complètement. Donc c'est un film que moi je trouve sublime et vraisemblablement le public a suivi. C'est vraiment le deuxième film. Il y a trois films qui ont plus de 10 000 spectateurs, L'Odyssée, L'Avenir et Un sac de billes, A Bag of Marble, qui là aussi est tout sauf une comédie, hein, puisque le thème c'est une famille juive qui fuit l'occupation. Donc c'est pareil. Hein. Ensuite, tout de suite après, on a Radin, donc Penny Pincher. Là, on passe en dessous des 10 000 spectateurs au total, hein, nationalement. On arrive à Just to be Sure, au témoin d'un doute. Alors, qui là, pour le coup, peut se rapprocher de la comédie romantique, hein, du film de famille mignon. Après, est-ce que c'est une comédie romantique? Pas sûr.
Mais... Pas débat.
Voilà. The Midwife, la sage-femme avec Catherine Deneuve et Catherine Fro. Alors, ça, c'est un bon exemple aussi des choses qu'on peut constater dans ce festival, mais plus généralement dans le film français. C'est un film qui, comme ça, a l'odeur de la comédie, qui a tous les ingrédients de la comédie, Catherine Fro, Catherine Deneuve. Là, on se dit, on va bien s'amuser. Et en fait, ce film est complètement pris par la réalité, par les difficultés économiques du pays. C'est une sage-femme, hein. Le personnage principal, Catherine Fro, est une sage-femme. Sa maternité ferme à cause de difficultés budgétaires. Et donc, finalement, un film qui a tous les ingrédients comme ça, quand on regarde l'affiche de la comédie, s'avère être finalement plutôt un film grave, même s'il y a plein de moments très, très forts, très tendres. Mais c'est pas une comédie romantique. C'est pas... il y a de l'amour, mais après... C'est le bon exemple de ces films français qui pourraient être des comédies et qui finalement, parce qu'ils sont plus en connexion avec la réalité, avec le monde d'aujourd'hui, deviennent des films plus hybrides, qui mélangent les genres. Et c'est le cas d'une manière générale dans beaucoup de films de la sélection et de l'industrie. Des films qui mélangent les genres, qui peuvent être un peu des biopics, un peu des films historiques, des drames, des comédies, il y a un peu tout. Alors, à une époque, on parlait beaucoup de comédie dramatique. On doit être très bon en comédie dramatique, je pense, en France. Et là, c'est tout à fait le cas. Alors après, si on continue le top 10, on a que des exemples de ce type-là. The Dancer, donc là, qui est un film historique, un period movie, qui a très bien marché aussi. De même que celui tout de suite après, Monsieur Chocolat, autre period movie. Là, pareil, c'est, je pense, le film qui donne vraiment l'impression d'une comédie et qui finalement, elle n'est pas du tout. On voit Omar Sy, on se dit, ça va être une comédie. Pas du tout. C'est un film sur le racisme. Alors certes, pas à notre époque, mais qui parle profondément du monde d'aujourd'hui. Juste la fin du monde. Alors là, on n'est pas du tout dans la comédie. Il a attiré un public parce que c'est un film de Xavier Dolan avec un casting incroyable. Et enfin, In Bed with Victoria, pareil. Alors là, on a tout, on peut avoir l'impression que c'est une comédie. Rien que le titre, un titre de comédie, In Bed with Victoria, Virginie Efira. Là, on se dit, bon, bah, c'est sûr, là, on va rigoler. Et en fait, c'est une jeune femme dépressive qui a du mal à élever ses enfants, qui a du mal avec la vie. Et donc, je pense que le public a dû être beaucoup surpris dans bien des cas pendant ce festival. À se diriger vers des films qui donnent l'impression d'être une comédie et qui finalement sont plus subtils que ça. Voilà, alors on pourrait aller jusqu'au top 15. Moi, il y a un film auquel je tiens beaucoup qui est Planétarium pour plusieurs raisons, qui est à l'épicentre du type de film, de la grosse production et du film d'art et d'essai par Rebecca Zlotowski, qui a très, très bien marché aussi par rapport entre le début de ses projections et la fin. Ça me permet aussi donc d'évoquer le fait que cette année, nous avons renoué avec les invités venant de France. Donc, on a accueilli trois invités. Rebecca Lazlotowski, donc pour Planétarium, et que vous avez eu la gentillesse d'accueillir sur SBS quand elle était ici. Emmanuel Berco, qui est venu aussi. Et pour défendre La tête haute et 150 mg. Et Ina Modja, s'est arrêtée à Sydney, sur son chemin pour Adélaïde, où elle chantait au WOMAD. Et donc, elle présentait Woulou, un film franco-malien.
Et La tête haute est un film impressionnant. Quand je l'ai vu, j'étais très impressionné par...
Oui, c'est un film incroyable, incroyable. Extrêmement émouvant.
Et dur.
Alors, il a moins bien marché que 150 mg, sans doute parce que le thème est plus dur et quand on lit l'histoire, c'est vrai que là, pour le coup, alors là, on est sûr qu'on va pas avoir une comédie. Là, il n'y a pas d'ambiguïté sur la tête haute. En revanche, et ça, je le dis pour les prochaines éditions, il y a des films qui peuvent être durs, dont le thème peut être dur, mais qui sont extrêmement stimulants et dont on ressort avec la pêche parce qu'ils donnent de l'espoir. Les thèmes peuvent être très durs, mais ils peuvent donner de l'espoir. Et il y a un autre film, alors maintenant c'est trop tard pour que j'en fasse la promo, mais c'est pas grave, je le dis quand même parce que c'est un très beau film, c'est Île de Living, Réparer les vivants, de Catel qui les verrait, qui n'a pas marché. Hein. Pour le coup, faut pas se le cacher, le thème était dur sur un jeune garçon qui meurt et dont les parents sont face à ce dilemme de devoir faire le don de son cœur pour une femme qui en a besoin. Donc voilà, donc quand on lit cette histoire, on se dit « Oh là 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 là, pour un dimanche soir, merci ». Et en fait, c'est un film extrêmement positif, stimulant, très émouvant, sur non pas pas émouvant dans le sens triste, mais émouvant quand on réalise l'investissement d'un groupe de personnes pour sauver une vie. C'est un peu le soldat Ryan avec beaucoup beaucoup moins d'argent et sur un tout autre thème. C'est combien de personnes peuvent être impliquées dans un process incroyable pour de don d'organes. Toutes ces personnes qui sont impliquées pour sauver une seule vie. Et ça, c'est extrêmement enthousiasmant. Donc voilà, donc ça, c'est aussi quelque chose que je voulais dire sur le festival. C'est ces films que j'ai souvent appelés, quand j'en faisais la promotion, les feel-good dramas. Et on en fait de plus en plus des feel-good dramas. Donc voilà, donc le bilan de ce festival, c'est donc un succès avec un programme plus difficile, qui nous montre donc que le public australien est prêt pour des films plus difficiles, qui parlent plus de l'actualité, qui parlent plus de la réalité, des problèmes d'aujourd'hui. Alors effectivement, si on peut aussi les divertir, c'est bien, mais ils sont prêts pour voir d'autres choses, et ils y sont allés. Il y a des films sérieux, il y a eu beaucoup de films sérieux dans ce festival, et ils ont rencontré leur public. Une autre chose intéressante, alors on n'a pas encore toutes les statistiques, mais celle que j'ai retenue dans les premières qui sortent, c'est qu'on a 70% des spectateurs de cette édition qui sont des spectateurs qui ont été aux éditions précédentes. C'est un chiffre en forte augmentation. On avait un plus gros turnover des spectateurs, l'édition précédente et les éditions précédentes. Donc, est-ce qu'on est en voie de fidélisation de notre public? C'est possible. C'est vrai qu'on investit énormément dans la communication sur ce festival. On a effectivement, là, on voit à peu près les recettes aussi qui font qu'un public va être séduit, va avoir envie de retrouver aussi des personnes qu'ils aiment, des Catherine Deneuve, des Juliette Binoche, des Marion Cotillard, des Isabelle Huppert. Et après, que ce soit une comédie ou un drame, c'est pas ça forcément l'essentiel. Il y a en revanche effectivement une sorte de grande famille de stars du cinéma qu'ils aiment, avec parfois des nouveau-nés du festival, du cinéma, qu'ils adoptent aussi, hein, des Adèle Haenel, des Léa Seydoux, ces nouveaux noms du cinéma, qui sont maintenant devenus aussi des membres de la famille que le public aime retrouver chaque année. C'est un peu le Noël du festival, hein, avec le grand réveillon, grand réveillon d'un mois, où on revoit toute la famille. Donc voilà, donc ça, c'est quelque chose auquel il faut être attentif, et aussi proposer au public de voir des choses qu'il ne serait pas allé voir sinon. Et heureusement, ces grandes têtes d'affiche jouent cette stratégie aussi de prêter leur nom à des projets plus difficiles. Donc tant mieux, ça nous aide nous aussi à présenter des choses que le public ne serait pas forcément allé voir. On réfléchit déjà à 2018, bien sûr. La semaine prochaine, donc, on parlera de l'édition 2018 au regard de ce qui s'est passé en 2017 et comment on améliore encore, on attire plus de public. Moi, je suis très attaché aussi à ce qu'on puisse faire venir plus de public jeune. C'est une préoccupation de toute la profession, je pense. Unifrance, tout le monde a Unifrance, que d'ailleurs je dois remercier. J'en profite pour remercier ce partenaire en France qui nous a aidé à faire venir Emmanuel Berco et Rebecca Zlotowski. Isabelle Giordano, donc qui est la directrice générale déléguée d'Unifrance, a vraiment entendu notre message qu'il fallait qu'on ait des représentants de la profession pour soutenir ce festival qui est essentiel dans le paysage des festivals de films français au monde. C'est le premier au monde quand même.
C'est le deuxième après Cannes.
Oui, mais Cannes est un festival international.
Oui.
Un festival français, le premier au monde, c'est celui-ci. C'est le festival du film français, l'Alliance française French Film Festival d'Australie. Et ça, Unifrance et Isabelle Giordano l'ont entendu et nous aident. Et donc pour moi, ce qui est important maintenant, c'est, donc on était là à la 28e édition, l'année prochaine c'est la 29e, et ensuite, là on a une étape très importante, la 30e. Et donc là, pour moi la 29e, on doit être déjà dans la préparation du 30e anniversaire, qui doit être un événement fort, avec beaucoup d'invités, avec des parrains australiens et avec des partenaires extrêmement soudés autour de cette programmation et de cet événement qui est devenu un événement important pour la communauté
au mois de mars
culturelle. Ouais. Exactement. Donc Unifrance a vraiment joué le jeu. Et donc oui, voilà. Et les jeunes, oui, voilà, puisqu'on parle du 30e anniversaire, hein, j'aimerais qu'il y ait plus de visiteurs qui soient plus jeunes, bien plus jeunes que ce festival. On a une moyenne d'âge encore assez âgée.
Donc c'est une programmation pour cibler les élèves du secondaire.
Alors même plutôt les jeunes adultes. Hein. Mm-hmm. Moi là aujourd'hui on a un public quand même très âgé. Mais c'est le cas, c'est pas le cas que du Festival du Film Français. C'est le cas en général des spectateurs qui vont au cinéma parce que maintenant il y a plein d'autres manières de voir des films chez soi, on télécharge légalement ou pas d'ailleurs. Donc il y a plein de solutions pour voir des films aujourd'hui très facilement sans s'embêter. Donc aussi le festival doit attirer les gens vers les salles de spectacle avec des choses qui parlent aussi au public et qui donnent une raison de se déplacer. Alors c'est vrai que quand on va le grand écran ne sera jamais remplacé, on a beau mettre le plus grand écran possible dans son appartement, ce sera jamais pareil que cet univers de la salle de cinéma, surtout en Australie où on peut aller à sa place avec son petit verre de vin. Ça c'est quand même la tradition. Ah bah non, pas du tout. On a pas d'alcool et surtout pas des verres en verre. Mm-hmm. Là dans les cinémas de notre cher partenaire Palace, on va à sa place avec un verre de vin et c'est vrai que toutes les projections où je suis allé, j'étais émerveillé de voir tout le monde comme un rituel avec son verre de vin devant son film français.
Étiez agréablement surpris?
Ah bah oui bah oui, ça montre que c'est une célébration, que les gens viennent au Festival du Film Français pour célébrer un esprit français. Mmh. Et ils prennent à cette occasion un verre de vin ou autre chose, hein, mais en général plutôt un verre de vin. Parce que voilà, on fête un certain art de vivre quand on va voir un film français. C'est comme ça que le public australien voit en tout cas les films français. Donc les jeunes dans tout ça, il faut aussi qu'on trouve des solutions pour les attirer. Alors j'ai beaucoup d'espoir dans l'ouverture de ces nouvelles salles de notre partenaire Palace qui va en ouvrir à Sydney, en tout cas près de Central, donc très près de l'université de Sydney. Mmh. Donc ça, c'est une importante opportunité pour attirer un nouveau public. Donc on verra qu'est-ce qu'on trouvera comme moyen pour attirer ce public. Mais il faut attirer les jeunes. C'est une question que tout le monde se pose dans le monde, en France aussi. Hein. Alors il y a eu des solutions qui ont été mises en place, mais ça nous échappe, nous, Festival du Film Français. Les cartes d'abonnement, par exemple. Donc voilà, 2018, quand on regarde déjà ce qui se présente comme film français, soit déjà sorti sur les écrans en France, soit au Festival de Cannes, qui est le premier grand moment, les acteurs vont acheter des films, les acteurs, je veux dire, les principaux intervenants du film français en Australie vont acheter des films. Il y a beaucoup de films très excitants pour 2018 aussi. Je pense qu'on arrivera à avoir une belle programmation si on va tous ensemble vers ces films.
Philippe, on profite de l'occasion peut-être pour parler du Classic French Film Festival.
Classic French Film
Festival. C'est la troisième édition déjà, d'après ce que je comprends.
Oui, donc là, je ne peux pas tellement en dire plus parce qu'on est encore en train de travailler sur le programme. C'est un festival plus court, hein, qui est sur que quelques jours, mais qui permet de
cibler un interprète.
Un thème ou un interprète ou un aspect plus rétrospectif sur une œuvre particulière. Donc là, je ne peux pas encore dévoiler le programme, mais on va y travailler dans les jours et les semaines qui viennent.
Et ce sera une première pour vous, encore une fois.
Oui, mais je m'en réjouis, parce que... alors, je pense pas qu'il y aura forcément des ponts entre le classique et l'Alliance française French Film Festival. Mais en revanche, il sera sans doute tourné autour d'un événement fort. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant.
Philippe, on profite aussi pour parler du programme culturel de ces jours-ci.
Oui.
Là, vous êtes à Melbourne en ce moment.
Oui.
C'est pour présenter l'artiste Benjamin Juste et une exposition qui a déjà commencé à l'Alliance française de Melbourne.
Oui, alors ça, je suis très très heureux de cet événement parce que c'est l'aboutissement d'un projet qui s'est développé avant que j'arrive et que j'ai repris en main quand je suis arrivé. Un projet pour de résidence d'artistes pour des artistes français. Donc Benjamin Juste a été le premier lauréat de ce programme qu'on a appelé FAR, French Artist in Residence. Il a été accueilli dans un lieu qui s'appelle Bundanon Trust, qui est Bundanon, le partenaire s'appelle Bundanon Trust, qui est un lieu très important qui accueille près de 300 artistes par an en résidence à 3 heures de Sydney, au sud de Sydney, dans la nature la plus vierge, avec des kangourous. Voilà. Bon, rien de d'épatant pour nos auditeurs, mais pour Benjamin Juste et pour tous les artistes qui vont venir en résidence, c'est quelque chose de vivre au milieu des kangourous,
comme on dit.
Voilà. Ouais. Et Benjamin donc est arrivé en novembre. Il est directement allé à Bundanon. Il n'était jamais venu en Australie. Il n'a même pas vu Sydney. Il est allé directement au milieu des kangourous et de la forêt. Et il a travaillé là-bas pendant 6 semaines. C'est la base de notre partenariat avec Bundanon, c'est d'accueillir un artiste français pendant 6 semaines en novembre-décembre. Et il a fait une œuvre. Alors lui, Benjamin est plutôt un land artist, qu'on appelle un land artist, qui travaille avec la nature et qui la transforme quelque part. Et lui, il a fait plusieurs choses. Il a fait notamment, ce qui lui a pris beaucoup de temps pendant sa résidence, il a sculpté un arbre qui était déjà tronçonné et qui était par terre dans la forêt. Et il l'a sculpté avec des tronçonneuses pour le rendre énigmatique, comme un alien, quoi, posé. Donc il garde sa forme d'arbre, mais avec une forme très carrée, comme une espèce de meuble Ikea prêt à un arbre qui serait prêt à devenir un meuble Ikea, ou une espèce de mutant entre l'arbre et le meuble Ikea, mais en une seule coupe, c'est-à-dire qu'il n'a pas découpé l'arbre et recomposé l'arbre, il l'a gardé dans sa forme intégrale, mais il l'a tronçonné de manière à ce qu'il ait une forme presque de meuble. Donc c'est très spectaculaire dans la forêt. Bien entendu, cette œuvre ne pouvait pas bouger, elle reste là-bas pour toujours, et elle vivra, elle va s'user comme un arbre mort, mais le public qui peut aller à Bundanon tous les dimanches pourra voir cette œuvre dans la forêt. Et en même temps, il en a profité pour tenter d'autres formes d'expression, notamment la photographie ou la gravure. Et l'exposition donc, qui est présentée à l'Alliance de Melbourne à Saint-Kilda actuellement présente donc, 10 photographies qu'il a prises pendant sa résidence, qui sont ce qu'il a appelé des portraits d'arbres, qui sont des prises de vue d'un arbre ou d'un groupe d'arbres la nuit dans la nature à Bundanon. C'est plein de mystères, plein de magie. C'est simple comme tout. Et en même temps, ça ouvre l'imaginaire à plein de choses. C'est comme la nature, comme la nuit, hein, d'ailleurs. C'est attirant, ça fait peur. On voit plein de choses et on voit rien aussi, on devine plein de choses. Il y a cette nuit étoilée incroyable hein, qui est tellement typique de l'Australie, enfin quand il fait beau. et ces photos ont toute cette magie. Et il y a quelque chose d'assez fascinant aussi, c'est que Benjamin est arrivé sans connaître la culture aborigène, sans connaître la tradition artistique australienne et sans connaître le pays. Et finalement, comme par magie, comme par miracle, il a produit des œuvres très au contact de cette tradition artistique australienne qui donne une grande importance à l'arbre. Ouais, il faut aller voir l'exposition. Je pense que tous les gens qui connaissent bien l'art australien et l'art aborigène arriveront et se diront ah bah oui, bah c'est un artiste qui a beaucoup travaillé avec les artistes aborigènes ou australiens. Pas du tout. Il est arrivé et finalement, qu'est-ce que ça dit? C'est que la nature australienne inspire aujourd'hui un artiste français qui est parachuté en son sein la même chose que ce qu'elle a inspiré à des générations et des millénaires d'artistes sur ces terres. Donc c'est très beau. Donc c'est aussi l'occasion de célébrer un partenariat avec Bandan & Trust, un partenariat, un type de partenariat que l'on souhaite développer dans les autres territoires australiens, créer une constellation de résidences d'artistes dans le New South Wales, dans le Victoria, dans l'Australie du Sud, l'Australie occidentale, le Queensland, partout. Donc là, on a beaucoup d'artistes avec qui vont venir en résidence prochainement avec ce programme ce programme phare va les aider. Dans l'ordre, en août, à Adélaïde, on aura une artiste qui est basée à Berlin, mais qui est française, qui s'appelle Myriam Meshita, qui fait beaucoup de céramique, qui a exposé au Palais de Tokyo, à la Cité de la céramique, et qui sera là en août, donc à Adélaïde, à la Gag Gallery. En octobre, alors là, je vais peut-être pas encore donner leur nom parce que c'est pas encore officiel, mais il y a deux grands graphistes, des graphistes qui sont un peu les pères du graphisme à la française, qui vont venir en résidence à Adélaïde aussi. Hein, Adélaïde est très français, vous savez, en ce moment, et puis même pas que en ce moment.
Avec les sous-marins.
Voilà.
Bientôt.
Donc là, on va faire venir un duo de graphistes qui devraient travailler sur une vidéo pour ensuite la projeter sur un bâtiment emblématique d'Adélaïde. En novembre, début novembre, on aura un artiste sonore qui s'appelle Benoît Bory, qui viendra dans le Victoria, qui viendra au Bogong Sound Art Center, dans les montagnes du Victoria. C'est un lieu qui se consacre aux artistes sonores. Et il va venir faire un travail très intéressant. Il va travailler sur l'impact du tourisme de masse sur le son de la montagne. Donc ça, dans le Victoria, en novembre. Et ensuite, on aura donc la deuxième édition de Bandanon avec un nouvel artiste qui succédera à François Réo.
À Benjamin.
Juste, et voilà, j'ai lâché le nom du suivant. Donc, ce sera François Réo. C'est un artiste qui fait plutôt du dessin, mais qui a l'ambition d'étendre le champ du dessin par l'installation, par des nouvelles formes, des formes expérimentales de dessin. Et il a un projet intéressant pour Bandanon. On verra ce qu'il fera. J'ai très hâte de voir ce que ça donnera. Et je pense qu'on peut déjà dire qu'on présentera sans doute même son travail à l'Alliance française de Melbourne, comme on le fait actuellement pour Benjamin Just, autour du mois d'avril à l'Alliance française. On a là aussi, c'est important, un autre partenariat dont on est très heureux pour cette première édition à Saint-Kilda, et j'espère qu'on continuera, avec le Monash, la Art Gallery de l'Université de Monash. Notre commissaire fait partie de l'équipe du Monash, il s'appelle Francis Barker, donc il a fait le commissariat de l'exposition de Benjamin. Donc j'espère, mais je pense qu'on est tout à fait tous d'accord, j'espère qu'on continuera dans cette lancée, qu'on va développer ce partenariat, le faire fructifier autour de ce type d'exposition. La galerie d'exposition de l'Alliance française de Melbourne est un outil fabuleux pour présenter des artistes. Par nature, elle est amenée à présenter des artistes avec un certain attachement à la France, soit parce que ce sont des artistes français qui viennent ici et comme vous l'avez compris, il va y en avoir de plus en plus, ou aussi des artistes australiens qui seront partis en résidence en France et dont il sera intéressant de montrer leur travail à l'issue de ce séjour en France. Voilà, donc ça c'est pour les artistes émergents, alors pas que, puisque les artistes graphiques, les graphistes dont je parle pour Adélaïde sont des artistes plus que reconnus. Et on va le développer aussi dans les autres territoires. Et par ailleurs, il y a aussi donc des artistes stars qui viennent aussi en Australie. Il y a actuellement Kader Attia qui a une exposition au Musée d'art contemporain de Sydney et l'exposition sera présentée ensuite à Melbourne pour le Melbourne Festival à l'ACA à partir du 30 septembre. C'est une exposition magnifique, majeure. C'est pas une rétrospective, mais c'est plutôt ce que les commissaires ici appellent une survey, une étude sur un artiste. Et c'est un très beau panorama de la création de Kader Attia, qui est un artiste très pertinent aujourd'hui, qui parle évidemment du monde, qui parle de la France dans le monde. Aujourd'hui, le 8 mai, c'est un jour très particulier pour parler de la France dans le monde, à plus d'un titre. Et Kader Attia a cette vision à la fois avec des outils très simples pour faire de... Ouais, il y a des artistes qui sont magiciens et Kader Attia en fait partie. Il prend des matériaux très simples, des procédés très simples et il réalise des miracles. Donc il y a notamment cette œuvre que tout le monde doit voir, cette installation qui s'appelle Les Fantômes, The Ghost, qui est présentée à Sydney, qui sera présentée à Melbourne, qui est une installation sublime avec des silhouettes sculptées dans des espèces de... dans du papier aluminium, mais qui évoque vraiment des couvertures de survie et des silhouettes comme ça en prière, recroquevillées sur elles-mêmes. Et voilà, il y a une surprise dans l'installation. Mais c'est absolument époustouflant. C'est une installation qui date maintenant un petit peu. Mais aujourd'hui, avec la crise des migrants en Europe, cette œuvre devient extraordinairement pertinente. Elle avait déjà tout dit à cette époque de ce qui se passe aujourd'hui. Donc c'est vraiment très important d'aller voir cette exposition. Donc Kader Attia, c'est un des artistes vraiment stars de France. On a eu la visite de Daniel Buren aussi à Sydney, qui venait voir ce qui pouvait se passer en Australie. Et un autre artiste, Laurent Grasso, qui est en contact avec la Biennale de Sydney. Voilà, donc il y a vraiment deux types de générations d'artistes que nous accueillons en Australie, les artistes émergents par le biais de ce programme phare, et peut-être ils deviendront les artistes stars de demain, et on les accueillera dans des événements comme la Biennale de Sydney ou le MCA de Sydney, l'ACA à Melbourne, l'ACMI. Voilà.
Ou la PIAF à Perth.
Exactement, exactement.
Il y a ce projet Crazy Horse dont on n'a pas parlé.
Ah bah oui, donc effectivement, il y a les films, il y a les artistes visuels et il y a dans ce qui va venir très prochainement, ce projet de tournée, c'est une première en Australie du Crazy Horse de Paris. Donc j'ai été au courant de ce projet dès mon arrivée. Ça a mis du temps à se mettre en place et à se lancer, mais maintenant ça y est, même les ventes sont ouvertes, donc il faut y aller, il faut taper Crazy Horse Australie et il faut prendre ses billets parce que ça va partir très vite. C'est la première fois que le Crazy Horse vient en Australie, donc il va venir à Melbourne, puis à Perth, Sydney et Canberra. Melbourne, ce sera du 8 août au 2 septembre à The Palms. À Perth, ce sera du 6 au 24 septembre, à Sydney du 27 septembre au 1er octobre et à Canberra du 4 octobre au 8 octobre. Donc c'est un événement, c'est vraiment un événement pour se...
À ne pas rater.
Ouais, à ne pas rater pour ce patrimoine parisien. Parce que c'est, ouais. Bernardin, quand il a créé ce cabaret, a créé quelque chose qui transcendait la tradition du striptease. Il en a fait un show visuel auquel d'ailleurs ont participé des artistes français majeurs comme Philippe Découfflet, Jean-Paul Gaultier. Voilà. Il y a eu des artistes invités aussi, Dita Ventis, Ariel Dombal. Donc c'est vraiment, et là ce sera un best-of avec leurs plus grands numéros, les numéros les plus connus. Mais c'est vraiment à ne pas rater. Oui.
Absolument. Philippe Platel, merci à vous et à la prochaine.
Ben, merci beaucoup, merci.
Vous êtes avec Radio SBS en français.